Écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière. Cimara. Mise en scène production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Nous sommes le 20 mars 2007 et il est 8 heures. Je vais commencer à écrire le lever des rideaux de ma nouvelle histoire qui a comme nom, peut-être définitif, de Simara, qui est un des noms du démon. J'ai déjà commencé à mettre sur le papier un gros résumé, ou plutôt un grossier résumé de ce que j'aimerais écrire. Mais je ne sais pas si je vais garder cette histoire, parce que je ne la sens pas. Et puis, il faudrait c'est que je fasse des recherches sur un sujet qui peut aller dans tous les sens. Enfin, nous verrons. On verra bien. C'est un pari que je me suis fait de commencer à écrire parce que je me remets tout doucement d'une longue et pénible maladie et que j'ai peur de ne plus avoir la force d'écrire et de faire mes écrits. Quoi qu'en pleine maladie, j'ai réussi à faire une petite vidéo d'une heure toute simple. De deux petites histoires, j'en ai fait une. La première, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille d'un grand vide en pleine ville et qui a perdu la mémoire. Il traîne dans la ville en y voyant trouble et cherchant à savoir ce qu'il est. J'ai fait la chose, comme j'étais seul, comme d'habitude, en caméra subjective. Et avec deux caméras, j'ai fait deux parcours différents et mis en fondu, continu, pour montrer la rue trouble, la rue que l'homme voit trouble et qui est brouillé dans ses pensées. J'ai mis en marche mes caméras en continu et j'ai marché. Ceci donne une image étrange où l'on voit la ville d'une façon trouble et on voit la ville d'une façon trouble, on voit les passants, on voit les immeubles. Ce sont deux images qui sont mises l'une sur l'autre. Ça donne quelque chose de vraiment bizarre. J'ai rajouté une musique et une voix off qui disait les angoisses de l'homme en plus. Ceci dure une demi-heure. Pour la deuxième partie, l'on devrait montrer l'homme chez lui, assis sur une chaise, paralysé des membres et ne pouvant parler. J'avais pensé, pour faire l'homme, comme il était paralysé et qu'il ne pouvait bouger, d'acheter une marionnette d'un vieil homme, mais pas une marionnette caricaturale, mais la plus réaliste possible. J'ai cherché. J'en ai trouvé une qui m'allait à merveille. Lorsque j'ai demandé le prix, l'on m'a dit 500 euros parce qu'il fallait prendre un tout. L'homme, une vieille et un banc, où ils étaient assis tous les deux. La chose était très jolie, mais trop chère pour ce que j'en avais à faire et juste pour une demi-heure de film. Alors je me suis retourné vers mon vieil ami Pierre-Max Roussillon qui a dit oui. Avant qu'il ne vienne, j'ai préparé la bande son avec les dialogues déjà enregistrés. J'ai mis aussi sur la bande les mouvements de caméra. J'ai fait asseoir Pierre-Max sur une chaise et j'ai filmé, en changeant de place, ma prise de vue. Tantôt le visage, les mains, les yeux, plan large, etc. La chose s'est bien passée, puis j'ai fait le montage images et sons. Les images sont très belles et le son impeccable. Depuis que je fais le son à part et fait avant les images, ça rend mieux. Le son direct, ce n'est pas ça. J'ai fait aussi une copie en DVD pour Pierre Max. Et puis, je voulais l'inviter au resto, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai réussi à faire ça malgré ma maladie. Et en plus, j'ai écrit 500 pages avec mon ordinateur. Il m'en reste plus de 1000 pour finir Le garçon aux yeux verts et deux petites histoires, deux petites nouvelles. L'ordinateur est tombé en panne pour la cinquième fois à cause de ma maladie. Comme je sers de Dragon pour dicter, il n'a pu reconnaître ma voix et voilà. Cela fait plus d'un mois qu'il est chez le réparateur. Là, j'ai fait filmer comment je travaillais et mes pannes. L'on voit l'écran quand je travaille. Bien sûr, lorsqu'ils ont un ordinateur en panne, ils le mettent en route et dans la journée tapent une phrase par-ci, par-là. Mais pour voir la panne, il faut travailler pour de vrai et en continu. Ce n'est pas de taper qui fatigue l'ordinateur, c'est les rectifications des erreurs. Parce qu'il faut qu'il enregistre les rectifications en son et écrit. Et rectifier 30 à 40 pages, c'est énorme pour lui. Mais moi, je dois écrire tous les jours 50 pages comme je le fais à la main. Un ordinateur, c'est bon, mais il faut vraiment en avoir besoin, c'est-à-dire pourquoi on veut en acheter un, ce que l'on veut faire avec. Et puis c'est très cher. Vous achetez une boîte vide, et pour faire des choses, vous êtes obligé, c'est de la remplir. Ce qui fait que le prix est à multiplier par deux. En plus, il ne dure pas longtemps, c'est comme pour la voiture. Vous avez même pas fini de le payer, qu'il est mort et qu'il faut en acheter un autre. C'est un cercle vicieux. Les banques devraient s'y prêter pour ce genre de choses, comme pour les voitures. Il devrait y avoir des prêts pour la vie, pour ces choses-là. De toute façon, il y a des prêts pour tout, même pour les vacances. Après, les banques disent que les gens sont surendettés. Mais c'est elles qui font que les gens sont surendettés. D'ailleurs, ça les arrange. Ça leur apporte de l'argent. Alors, ma maladie. En fin d'année 2006, en décembre, j'étais opéré deux fois et dès la fin de ma première opération, je me suis senti fatigué, essoufflé, mal à la poitrine, etc. En début d'année, j'ai vu mon médecin qui m'a donné des choses que l'on donne pour un rhume. Mais ça n'allait pas. Et la semaine dernière, le 12 mars, que je ne pouvais plus respirer, j'avais tellement mal que j'ai pris un rendez-vous chez le médecin pour lui expliquer ce que j'avais, ce que je ressentais. Il m'a demandé si l'on m'avait pas fait une radio des poumons après mes opérations. Je lui ai dit que non. Il me donne une ordonnance pour que je puisse en faire une et une autre pour les médicaments. Vendredi de la semaine, de la même semaine, je fais faire cette radio et l'on me trouve une pneumonie, etc. Je téléphone au médecin qui me donne rendez-vous le jour même à 18h30. Le soir, Je vais le voir. Là, il veut m'hospitaliser en urgence. Puis réfléchit et veut téléphoner à un spécialiste des poumons. Malheureusement, c'est vendredi, il n'y a personne. Alors, il me fait une ordonnance. Il me dit de prendre de suite ses médicaments et même de suite de doubler la dose et je dois lui téléphoner le lendemain matin. Je cours à la pharmacie qui, heureusement, a tout ce dont j'avais besoin. La nuit, je la passe en sueur froide, mouillée, trempée d'eau froide. J'étais obligé de changer plusieurs fois de vêtements et de draps, etc. Cette fois, je me suis changé que 4 fois dans la nuit. Puis, j'étais mieux petit à petit. Je toussais moins, respirais mieux, moins en sueur froide, reprenais un peu l'appétit et le boire. Et je suis encore fatigué. Je suis obligé, c'est de me reposer en fin de matinée. Et la journée, je dors un peu mieux, avec moins de sueur froide. Ça a été dur, 3 mois où j'ai malgré tout essayé de faire des choses. Pardonnez-moi si je lis si mal, c'est le retour et je n'ai plus l'habitude de lire. Et puis je suis encore fatigué. J'ai enfin fini le cycle des 3 mousquetaires, 20 ans après le vicomte de Bragelonne. Celui qui est le mieux écrit, c'est 20 ans après. 3 mousquetaires, il y a trop de boustifailles, de scènes qui ne servent à rien. C'est seulement D'Artagnan qui fait quelque chose. Le vicomte de Bragelonne, malheureusement, l'on le voit très peu. Dommage, ça aurait été un très bon personnage. L'on donne une trop grande place aux amours du roi Louis XIV. Le personnage du Marquis de Fer aurait dû être plus long et développé. Là, c'est juste un homme qui passe. Il prend la place du roi grâce à Aramis en un tour de main et le roi reprend sa place en quelques heures. Rien n'a pu changer. C'est dommage. Prendre la place du roi, comme ça, chez Fouché, sans qu'il le sache, pourtant, le lit a un secret. Il peut descendre au sous-sol. Comment Fouché ne savait-il pas ça, chez lui, qu'il avait un lit qui pouvait descendre jusqu'au sous-sol, puisque c'était dans son château, et que c'était lui qui avait fait construire ce château. Et comment Aramis a pu savoir cette chose-là? D'après ce que j'ai compris, la chambre où le roi couche est à l'étage. On ne fait pas coucher une personnalité de marque comme ça au rez-de-chaussée. Alors il faut que la trappe qui mène le lit du roi au sous-sol descendent les étages et passent par des pièces plus basses. Pas très réaliste, non, le vicomte de Bragelonne a été bâclé et c'est bien dommage. Il y avait tout pour faire un bon roman. L'échange du roi, Bragelonne, le chef des jésuites, etc., etc. L'échange du roi aurait pu durer plus longtemps. Il y a un bel exemple littéraire là-dessus, comme le prince et le pauvre. Le roman Le prince et le pauvre. Alors pourquoi avoir fait durer la chose en quelques heures? Peut-être que Dumas n'avait plus d'idée ou était pris par autre chose. Dommage. Avant de relire le cycle des 3 mousquetaires, j'ai voulu relire Le Capitaine de Michel Zévaco. J'ai voulu le relire parce que l'histoire se passe avant les 3 mousquetaires. c'est-à-dire au temps de Louis XIII, entrant dans son adolescence. Je trouve ce roman populaire, merveilleusement bien écrit, etc. Avec plein de rebondissements et de personnages pittoresques. Mieux écrit que Dumas, et au fur et à mesure que l'on lit, on a envie de savoir la suite. Il y a des erreurs historiques, mais Dumas aussi en faisait volontairement et involontairement. J'ai relu Julien Green, écrivain que j'aime beaucoup. L'épave, livre très fort. Le cri d'une femme, un soir sur les quais, va en être le signal. Avant l'affrontement avec soi-même, avoir sa vérité intime. En danger de mort, elle a appelé Philippe et il s'est enfui. Désormais, cet épisode obscur qu'il tait à ses proches le hante. La lâcheté qu'il a découvert en lui à cette occasion n'est-elle pas ce qu'il définit toute sa vie face à une femme qu'il n'aime plus, un fils relégué au pensionnat, des associés qu'il redoute. Il a peur de sa femme, mais en plus, vit avec eux sa belle-sœur. Sa belle-sœur l'aime et fait tout pour remplacer sa sœur. Sa femme le fait chanter parce qu'elle sait qu'il ne peut faire l'amour avec elle. Par impuissance, pour cause d'impuissance. Et lui, à la fin de l'histoire, raconte à sa belle-sœur sa lâcheté. Mais désormais, il a deux femmes qui le jugent et le tiennent. Il est prisonnier d'elles. Le deuxième livre de Julien Green que j'ai lu, c'est Léviathan. Ce livre est un cauchemar. Tout est laid, le décor, le temps, les gens. Un jeune homme, mal dans sa peau, vivant avec une femme qu'il n'aime pas, timide, brute, rêveur, peur de tout, et cependant passionné. Il rencontre une jeune fille délurée qu'il croit pure et apprend qu'elle se donne pour quelques pièces. Cela le rend jaloux. La jeune fille a sa tante, ou soi-disant tante, qui tient d'une main ferme un restaurant bon marché, qui pour garder ses quelques clients propose à ces messieurs la petite. Le personnage est horrible. Tous se tiennent mal et tous vont finir mal. Livre bien écrit comme un cauchemar. Julien Green écrivait sans savoir où il allait. Il laissait son imagination aller. Comme il avait du talent, c'était bien. Pas comme André Breton et son écriture automatique qui n'a fait que des choses sans intérêt. Julien Green a écrit toute sa vie, jusqu'à sa mort, presque 100 ans. Homme solitaire qui vivait entouré de souvenirs des États du Sud de l'Amérique du Nord, du Paris d'avant la guerre de 40. On m'a dit que Julien Green veut dire en anglais « vert ». Je sais ce que Fouquet veut dire en vieux français « écureuil » et Colbert, en vieux français aussi, veut dire « vipère ». « J'ai lu et regardé aussi l'affaire Tournesol d'Hergé, que j'aime beaucoup. J'aime pas les bandes dessinées actuelles, mais j'aime les vieilles bandes dessinées qui sont pour nous distraire et n'est pas pour faire du politiquement correct. Nous donner des leçons de politiquement correct ou de morale dans l'air du temps. De morale plus ou moins arrangée. J'ai vu aussi quelques vidéos, comme la série La caméra explore le temps, Le théâtre de la jeunesse, Le chevalier de Maison Rouge, etc. Toutes ces vieilles émissions qui étaient faites avec soin et non formatisées comme maintenant, mais qui oserait, à notre époque, diffuser ce genre d'émissions ? Ce serait si suicidaire. Le public n'a la télévision qu'il mérite et demande. Le public n'a que la télévision qu'il mérite et demande. Bien entendu, de temps en temps, il y a de bonnes émissions, comme le cycle des Montpassant sur Antenne 2, qui sont pas mal faites. En 1960, Carlo Rim avait fait des adaptations de nouvelles de Montpassant, les mêmes qui passent en ce moment. Très belles adaptations que l'on ne voit plus, hélas. Qui sont passées qu'une fois pourtant. Elles étaient diffusées le dimanche en fin de journée. En 1960 aussi, de temps en temps, le mardi soir, nous avions un décrochage avec la télévision belge qui diffusait en direct. Et pour la France et la Belgique, et des fois c'était la France qui diffusait pour la Belgique, une dramatique comme on disait, qui était faite en direct. Un soir, nous avons eu l'adaptation de la nouvelle de Montpassant, La Parure. Adaptation modernisée, mais pas mal. Voilà, je termine la première journée d'écriture qui n'a pas été trop fatigante parce que ce n'est pas une histoire que j'écrivais. Je vais continuer à écrire demain pour mon lever de rideau ou le résumé de mon histoire. Si c'est le résumé de mon histoire, ce sera plus difficile. Je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin, nous verrons. Et si j'ai l'ordinateur, je serai obligé de continuer à écrire la suite de ce que j'ai commencé. Le garçon aux yeux verts et deux nouvelles. Je vais commencer. Décidément, ça ne veut pas du tout. Je vais continuer à écrire comme ça jusqu'à ce que je puisse vraiment m'occuper du résumé de mon histoire. Il faut que mon cerveau réapprenne à réfléchir, réapprenne à travailler et non à vagabonder. Nous sommes le 21 mars 2007, il est 7h40. Je ne sais pas quand vous entendrez cette émission parce que j'en ai fait beaucoup d'avance. Peut-être serai-je mort. Ça n'a pas d'importance du moment que l'histoire existe. Cette année, la France doit élire un président de la République. De nombreux candidats de n'importe quoi. Certains se présentent pour éviter que d'autres ou qu'un autre ait des voix. Je ne trouve personne capable d'assumer cette fonction. Donc, je voterai sûrement blanc. Pour moi, le président de la République, comme le disait si justement le général de Gaulle, doit être au-dessus des partis. Son rôle est de défendre les intérêts de la France et des Français. Toute sa politique doit être là. Indépendance, souveraineté. Il pourrait même y avoir un président de la République d'aucun parti politique. Mais, vu la puissance des partis, Le chantage qu'ils font sur les citoyens, cela ne peut se faire. Chaque parti doit avoir un de ses membres à la place suprême pour se partager le gâteau de la France. Les intérêts du parti priment avant tout. Le parti qui a le président de la République met ses amis comme ministres, préfets, aux fonctionnaires, à la radio, la télévision, les services nationalisés, les ambassades, etc., etc. Il cache tous ses copains avec un bon salaire et tous les avantages, logement, voiture de fonction, bonne retraite, etc., etc. Le tout payé par la nation. C'est comme si la mafia s'emparait du pouvoir. Je ne voterai jamais socialiste. C'est le parti le moins démocrate qui soit. S'ils perdent des élections, une loi passe et qui leur déplaît, ou qu'ils veulent seulement bloquer le pouvoir en place, ils font appel à leurs copains, syndicats, fonctionnaires, enseignants, syndicats d'étudiants, aux chefs d'établissement, pour causer des troubles dans les rues et les lieux publics. Ils font chanter le pouvoir qui est paralysé comme la France, et même pour les élections, ils font chanter les électeurs en leur imposant ce qu'ils doivent voter, comme faisant manifester tous ceux qui n'ont pas le droit de voter, les mineurs, les étrangers, et ceci avec l'aide des chefs d'établissement qui payent même les frais de transport aux mineurs pour aller manifester. Les jeunes tout contents d'avoir un jour de défoulement y vont à fond. Non, pas socialiste. La Royale qui disait vers le début de sa campagne qu'elle voulait donner plus de travail, plus d'heures de travail aux enseignants. Quelques temps plus tard, elle dit le contraire. Cette personne n'a pas d'idée. Elle prend ses idées dans l'air du temps. Ce n'est que la marionnette de son parti. Sa seule idée, c'est de gagner les élections. À tout prix, même en disant le contraire de ce que l'on a dit hier. Pauvre France, tu es mal parti. Ce n'est pas encore cette fois que tu vas résoudre tes problèmes, que celui du chômage qui dure depuis 1974. La dette extérieure qui ne cesse d'augmenter. Personne n'en parle de cette dette. Un jour, le gouvernement sera bien obligé de faire quelque chose. Et il va falloir rembourser cette dette. Elle sera remboursée, comme d'habitude, par les petits, en baissant le livret A, en augmentant les charges sur la paye. Pourtant, cette dette est due à quoi? Surtout à une chose. On achète trop de produits à l'étranger. Et pourquoi l'on l'achète à l'étranger? Parce que nos industriels préfèrent jouer les grossistes que de fabriquer. En France, dans les années 70, les entreprises ont refusé de s'adapter pour fabriquer des transistors parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher. Ce qui fait que les chaînes IFI, radio, télé, cinéma, tout ce qui a des transistors sont achetés à l'étranger. Même les ordinateurs et tout ce qui est informatique, etc. Une grande partie des choses que l'on achète vient de l'étranger. L'électroménager, l'informatique, les accessoires voitures, même si elles sont françaises. Le cinéma, la télé qui achète ou loue des temps d'émission clés en main de l'étranger, comme La Nouvelle Star, etc. Et les séries. La dette vient que la France achète trop à l'étranger et n'importe presque rien. Et dire que même les vêtements viennent d'Italie, d'Angleterre, d'Amérique, de la Chine, l'Inde, la Tunisie, etc. Les chaussures basket des jeunes cons ne sont pas françaises, elles ne sont pas fabriquées en France. Les jeunes non plus. Les jeunes non plus ont une culture et une façon de se vêtir qui n'est pas français. On a fait tout un cinéma pour lancer le A380. Et à peine la pub a été faite que c'est le fiasco. On n'y comprend rien. Il est vrai que cet avion a été créé avec l'aide de l'Europe et on aurait dû le faire seul. Et dire que la Royal veut faire construire un porte-avions avec l'aide de l'Europe. Pour ce qui est de l'énergie, je crois à l'atome. Mais laissons-lui le temps pour qu'il devienne plus rentable et moins dangereux. Il faudrait combien d'éoliennes pour remplacer l'atome en France ? Qu'un comptable fasse le calcul. La nouvelle centrale atomique, il y a déjà du progrès par rapport aux autres. Alors laissons-lui la chance de prouver ce qu'elle vaut. Toute énergie est dangereuse. Le charbon a fait des morts et donné le cancer, beaucoup de morts même. Les barrages peuvent se briser et créer une catastrophe avec des morts, sans compter qu'un barrage construit égale écologie en moins, etc., etc. La France a beaucoup de problèmes à résoudre. Elle ne peut les résoudre qu'en ayant sa souveraineté. Qu'elle ne soit pas un État parmi d'autres États et aux ordres d'un gouvernement européen. Le chômage, qui ne peut être résolu que par la prise de conscience des industriels, des financiers, il faut que la France reproduise des produits pour éviter qu'on achète à l'étranger pour diminuer la dette extérieure. Si ces messieurs qui sont responsables en grande partie de cette dette refusent l'effort national, on doit les paralyser financièrement et les pénaliser. Tout produit qui vienne d'une fabrication entièrement de l'étranger qui vienne en France sera paralysé par une augmentation de sa TVA. Et les autres produits, il y aurait diminution, ou pourquoi pas suppression de la TVA. Si on supprime la TVA, surtout, cela augmente le pouvoir d'achat à tous, sans augmentation de salaire. Mais attention, le prix d'un produit doit diminuer suivant cette TVA. Celui qui ne le ferait pas serait fortement pénalisé. Diminuer la TVA sur tout, même les loyers et l'électricité, etc., etc., sauf pour les produits fabriqués en entier ou en partie à l'étranger. Le nouveau gouvernement aussi a traité de l'énergie, du remplacement du pétrole qui arrive à sa fin, etc. De la santé publique. Faut-il supprimer des postes dans les hôpitaux, la médecine, la recherche? La recherche est indispensable à un pays, car elle est le cerveau. Elle en est le cerveau, la tête pensante. Recherche sur tous les domaines. Puisque les Français veulent bien se soigner, une bonne médecine, pourquoi ne pas leur donner? Cela créerait des emplois. Pourquoi supprimer des postes aux hôpitaux alors que la demande est très forte et que les gens sont prêts à y mettre le prix? Il y a des tas d'emplois dans ce secteur à créer. En plus des soins, il y a des services de mise en forme, ville d'eau, bain de boue, mer, gym, etc. Vacances de santé, etc. Les produits pharmaceutiques, la biotech, etc. La recherche peut servir et doit servir pour les nouveaux produits moins polluants, moins énergétiques et qui pourraient être mis en fabrication en France au lieu de l'étranger. Il y a aussi la pollution, le climat, la culture alimentaire. Pourquoi cultiver des produits où il faut beaucoup d'eau, alors que d'autres, il en faut beaucoup moins? Améliorer la vie des bêtes de ferme, qu'elles ne soient plus des machines à fabriquer du lait ou de la viande. Moins manger, mieux manger. Remplacer peut-être certains aliments par des vitamines pour moins manger de viande ou créer de la viande sans tuer les bêtes. Le paysan pourrait, s'il a moins de travail avec ses champs et ses bêtes, s'occuper, être le gardien, surveiller la nature, remplacer des arbres, recréer des forêts, des baies, chercher des sources, dépolluer les campagnes, montagnes, augmenter les arbres du double avec des qualités d'arbres qui sont plus résistants, en mettre le long des routes. Le chauffard n'a qu'à bien conduire. Ce n'est pas l'arbre qui va se cogner sur la voiture. Créer des pistes cyclables et piétonnes, des sentiers, surveiller les animaux sauvages pour qu'ils ne se reproduisent pas trop et ne nuisent pas. Faire des logements campagnards et des auberges. Arrêter les constructions en montagne et sur le littoral. Ce qui fait que le paysan devra les garder devra garder la portion de son lieu en plus de sa ferme bien amaigrie. Il y aura des écoles pour les former à leur nouveau métier, plus intéressant que l'autre, payé à 70% par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Pour ce qui est de la culture de l'esprit, la création, j'estime que moins un gouvernement s'en occupe, mieux c'est. Il n'y a que les régimes totalitaires qui s'occupent de culture. Et une culture sans aide, une culture, je veux dire, avec aide, ne fait pas une bonne culture. Parce que la création ne pense qu'à ses subventions est passé au public. Et une œuvre sans public est une œuvre mort-née. Et puis c'est toujours les mêmes qui demandent. Un auteur, un créateur, lorsqu'il écrit son œuvre, n'est pas payé. En général, des fois, il y met un an et plus. C'est une fois fini son travail qu'il est payé, s'il trouve un éditeur ou une compagnie théâtrale ou un producteur de cinéma pour faire jouer son œuvre, autrement il n'a rien. Les intermittents du spectacle ont le chômage. Lui n'a rien. Rien de rien. Pourtant, sans créateur, pas d'œuvre. Mais en plus des gens du spectacle, pour ne rien avoir à payer, écrivent eux-mêmes leur œuvre ou adaptent une vieille œuvre, genre Shakespeare, etc. Ce qui fait que le créateur a encore moins de travail à cause d'eux. Le metteur en scène veut être auteur pour prendre toute la part du gâteau. Et même des fois, il le fait en défigurant une œuvre, soi-disant pour la mettre au goût du jour. Voilà pour ces élections. Nous en reparlerons lorsque ce sera fini. Nous sommes le 22 mars, il fait un temps qui ressemble encore à l'hiver. Mais c'est normal, ça a presque toujours été comme ça. Les gens ont la mémoire courte. Ne dis donc pas, en mars, que c'est le mois des giboulées. Et puis c'est une bonne chose qu'il pleuve un peu. Il faudrait même beaucoup, parce que l'on dit qu'on va manquer d'eau cet été. Les gens se plaignent du manque d'eau et lorsqu'il pleut, c'est la catastrophe. La météo dit « mauvais temps » lorsqu'il pleut. Et puis, avec toutes ces vacances scolaires, pour le tourisme, il faut du soleil. Les touristes ont besoin d'un temps contraire à la nature. Je ne pense pas que le climat ait vraiment changé. Ce qui a transformé la nature et le manque d'eau, c'est le regroupement des hommes, la grandeur des villes, la création de routes, chemins goudronnés. Il y en a trop, et trop de routes, de chemins goudronnés, ce qui empêche l'eau de s'infiltrer, elle s'évapore. On a trop construit, on a trop recouvert le sol. En plus, il y a la pollution créée par les gaz, les déchets. La seule vraie solution est de diminuer la population, les naissances. Cela se fait plus ou moins bien naturellement et par le bon sens. Mais les gouvernements, les industriels qui ont besoin de consommateurs, de gens sous leur ordre, créent des lois contraires pour que les gens puissent se multiplier. La surpopulation est un problème urgent à résoudre et planétaire. L'Afrique, qui meurt de faim, qui a des problèmes de santé, de chômage, de guerre, continue à se surpeupler et ceci malgré les épidémies. Sans les épidémies, il serait combien ? Le continent ne peut pas tous les alimenter. Il faut leur faire comprendre que la surpopulation égale plus de misère. Il faut aussi c'est que les Occidentaux fassent un effort pour moins polluer et vivre autrement, avoir moins de gadgets polluants. Les paysans doivent se produire des plantes qui demandent moins d'eau, faire des champs moins grands, recréer des haies, arrêter la surproduction de viande animale et laitière. Parce que un troupeau de vaches aussi pollue l'atmosphère. Pour que les gens puissent prendre les transports en commun, il faut créer et rouvrir des gares à trains normaux ou Micheline. Le TGV, c'est bien, mais c'est bon pour les très longues distances. Il faut des trains qui s'arrêtent à plusieurs gares et à des distances de 70 km ou 100. Arrivé à la gare, il faudrait des cars pour aller dans des lieux plus loin. Même des petits cars de 20 à 50 personnes. Pour les villes, multipliez les cars. Certains cars ont des parcours trop longs et sont surpassagers. Il y a trop de passagers, comme la ligne 1 à Lyon, qui est trop longue. Il faudrait la doubler ou la diviser par deux. Trouver des systèmes de porte-bagages ou autres pour les encombrants dans les cars, cartons, valises, caddies, etc. Plancher bas aussi. Et pourquoi ne pas mettre une personne au milieu du car, comme avant, sur une estrade avec un micro qui vérifiait les billets et en vendait, avec un téléphone portable pour la police et les pompiers. Le chauffeur serait dans une cabine isolée où on pourrait lui parler, comme avant. Ceci empêche. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.